notre relation était au début presque saine. C'est-à-dire qu'il y avait quand même des épisodes d'hystérie qui étaient, dont j'aurais dû me méfier. Mais je me disais, ça va passer, on va travailler là-dessus ensemble, je vais lui faire remarquer que porter la main sur moi, c'est pas terrible, et ça va passer. Bon, surtout quand elle picolait. Là, elle devenait un peu méchante, incontrôlable, gênante en public. Donc c'était très difficile pour moi de gérer ça. Je lui faisais remarquer que c'était dur, mais ça a été de pire en pire. Et après la fausse couche, c'est là qu'elle a explosé. Elle était violente physiquement. Il fallait surtout pas que je réponde, évidemment. Et puis, le lendemain matin, en général, elle se sentait très coupable. Elle se fondait en excuses. C'est là qu'elle s'est révélée comme étant quelqu'un d'instable. Et ensuite, elle est devenue très jalouse. Et par exemple, un signe de cette jalousie, quand je me rasais ou quand je me tondais la barbe, elle devenait folle. Elle me disait « Tu vas draguer, hein, c'est ça, c'est pour ça que tu te tends la barbe. Hein. C'est pour ça. » C'est absurde, donc comment se défendre de quelque chose d'absurde ? C'est très difficile. J'essaie de la raisonner, simplement le moindre mot que je prononce se retourne contre moi. Un jour, je croise ma belle-mère, c'est-à-dire l'ex-femme de mon père, qui me dit, pour être gentille, « T'es toujours aussi mignon. » Et puis on discute 5 minutes, elle s'en va. Et après, pendant des heures et des heures, mon ex me disait « Tu veux la baiser, hein, c'est ça. Tu vas la baiser, hein, c'est ça. » Pendant des heures, c'était insupportable. Et donc à la fin, j'optais pour le silence et la fuite, quoi. C'est-à-dire que je quittais l'appartement et je revenais quelques heures plus tard en espérant qu'elle se soit calmée. Parfois, elle ne se calmait pas. Parfois, je revenais, elle avait bu. Et quand elle avait bu, elle n'était pas commode. Voilà, on vivait dans une relation très toxique. J'ai vu le moment où j'ai eu envie de la tuer quand même. Et à ce moment-là, j'ai dit, il faut qu'on arrête cette relation parce qu'on va s'entretuer et il y a de fortes chances que je gagne. Donc j'ai préféré couper court, stopper là la relation. Du jour au lendemain, je suis parti. Je suis allé vivre chez ma mère et je lui ai laissé l'appartement. Dès qu'on s'est séparés, elle a commencé à expliquer que j'étais un monstre, un salopard. J'étais un taré qu'il fallait enfermer, interner. Elle m'envoyait des mètres de messages. C'était un mélange d'insultes, de menaces, et puis d'amour et de « reviens, reviens ». Elle voulait absolument que je revienne, tout en m'insultant et tout en me menaçant de se suicider. Elle appelait aussi ma mère à des heures pas possibles, à 3h du matin. Elle appelait pour l'insulter aussi. Elle s'est aussi servie d'une bague qu'elle a gardée, la bague de ma grand-mère, comme monnaie d'échange. Elle me faisait du chantage en disant « Si tu veux revoir cette bague, si tu veux la rendre à ta mère, accepte de me rencontrer. J'ai envie de te voir. Je pense qu'on devrait faire une retraite spirituelle tous les deux pour que les choses s'arrangent. Je pense qu'on devrait recommencer à zéro. » Quand tu es constamment persécuté par quelqu'un, puisque c'était mon cas, t'as peur. Enfin, j'avais peur. Je suis allé voir un psychiatre pour essayer de comprendre ce qui se passait, pour essayer de m'enlever de l'idée que j'étais un monstre, parce qu'elle a réussi à m'en convaincre. Je ne sais pas comment ce processus se déroule dans la tête, mais j'en étais convaincu. Mon ex était une manipulatrice hors pair. Elle m'a convaincu que j'étais un monstre. Quand elle m'envoyait des kilomètres de messages, je ne répondais jamais. Jamais, jamais, jamais. De peur de l'énerver et qu'elle décide de faire quelque chose d'inconsidéré. De tout casser dans l'appart, de s'en prendre à moi physiquement. On y pense aussi quand même. Hein. C'était forcé d'y penser à ce genre de choses. Quand je suis rentré après 4 mois, parce que j'avais nulle part où aller et je vivais chez ma mère, ce qui est troublant à 37 ans. Tous mes meubles avaient disparu, sauf le lit, qui était le sien, d'ailleurs. Elle avait pris mon canapé, elle avait pris table basse. Quand je suis rentré, c'était vide, quoi. Je découvrais les dégradations, et puis je découvrais surtout mes livres profanés. J'adore mes livres, c'est mes enfants, tu vois. C'est con de dire ça, mais c'est vrai, j'adore les livres. J'ouvrais les pages et je trouvais des insultes. Connard, enculé. Le livre de l'intranquillité de Pessoa a été rebaptisé le livre de l'enculé. ce que je trouvais assez drôle malgré tout. Le temps passe, je reçois toujours ces messages de 40 km d'insultes, et puis soudain, je n'en reçois plus. Tout d'un coup, je reçois plus de messages. Et je me dis, ça y est, c'est terminé. Et entre-temps, j'avais rencontré une femme. Mais un jour, je reçois un message, un SMS qui dit « Alors, est-ce que mon lit est confortable avec la nouvelle ?» Et une semaine plus tard, j'ai un courrier, j'ai une convocation devant un policier pour répondre d'actes de violence. Elle a porté plainte contre moi pour violence domestique ayant entraîné un mois d'interruption temporaire de travail, d'ITT. Et c'est une accusation qui est très disqualifiante, quoi, en société. Quelqu'un qui frappe une femme, c'est un monstre. Quand on est catalogué en tant que monstre, ça devient difficile de garder la tête haute, même si on est innocent, on n'a rien fait, quoi. Quand j'ai réintégré mon appartement, j'ai même mis longtemps avant de rouvrir mes volets, quoi. J'avais peur qu'elle me voie ou qu'on me voie. Non, il y a eu un moment très dur. La première fois que je devais passer devant la policière, où j'étais quand même accusé d'avoir frappé une femme, j'étais vraiment pas à l'aise. Je me sentais aussi stressé que si j'allais affronter quelqu'un sur un ring. J'ai revécu exactement les mêmes peurs que j'avais quand je faisais de la boxe. Si je dis mal les choses, si je m'exprime mal, ça va se retourner contre moi et je vais risquer la prison. Et j'avais regardé sur internet, alors quand tu as causé un arrêt temporaire de travail supérieur à 8 jours, tu risques la prison. Et quand la policière a annoncé que c'était un mois d'ITT, j'étais tétanisé. Et j'ai été extrêmement surpris parce que je me dis comment elle peut avoir le moindre dommage physique étant donné que je ne l'ai pas touché. Heureusement, c'était une ITT psychologique. J'avais rassemblé quand même quelques preuves de mon innocence, notamment ces messages. Et puis j'avais certains arguments pour expliquer que je n'avais pas frappé, que je ne l'avais pas tabassé, que ce qu'elle décrivait était complètement absurde. Ensuite, la policière m'a dit « Vos versions sont tellement différentes qu'il va y avoir une confrontation. » Et là, j'ai dit « Ah non, je vais être obligé de la revoir. » Pendant 2-3 mois, je cogite, j'ai peur, je me fais les pires scénarios dans ma tête. Je me dis que je vais aller en tôle pour toujours. Je m'imagine le pire. Quelques mois plus tard, je me suis retrouvé dans la même pièce avec elle et deux avocats et un policier. Je l'ai vue, j'ai eu peur. Elle m'a regardé en souriant. Ce qui m'a fait encore plus peur. Parce qu'il y a des sourires qui font peur. Le sien n'était pas rassurant, ce jour-là. Avec les yeux écarquillés. Enfin, au début, j'étais très, très, très stressé. On m'a rassuré en me disant « Tu n'auras pas à lui parler directement. » Et encore une fois, je me suis senti comme si j'allais monter sur un ring, quoi. Avec un mec qui veut ma peau. La confrontation a duré environ 2 heures. C'est un marathon. Il faut être concentré. Il faut pas dire de bêtises. Il faut pas dire ce qu'on a sur le cœur, mais il faut dire les faits. Elle ne me quittait pas des yeux. C'est ce que mon avocate m'a dit. Moi, je l'ai pas regardé une fois. Pas une. Et là, elle a dit « J'ai porté plainte parce que je l'ai vue au bras d'une autre femme. » Et ça m'a fait mal. Ça a duré 6 mois, la procédure. Et j'ai eu peur pendant 6 mois. J'ai eu peur d'aller en prison. Donc elle a réussi à me persuader que j'étais un monstre. Et la procédure aussi t'en persuade. Quelques mois plus tard, j'ai été convoqué par le délégué du procureur qui a classé l'affaire. Et elle a été reconnue coupable de harcèlement. Je pense pas qu'elle ait eu de sanction, puisque c'est une primo-délinquante. Elle avait jamais rien fait de mal. Moi non plus, d'ailleurs. Mais, malgré tout, elle a été reconnue coupable de ça. Ce qui m'a fait du bien. Une fois que ton avocate te dit « c'est fini, c'est terminé », moi, je me suis senti soulagé. J'ai pris mon temps pour sortir du tribunal. J'avais envie de savourer ce moment, quoi. Et puis, quand j'ai passé la porte, j'allais boire une coupe de champagne avec ma fiancée. On était enfin délivrés. Elle me faisait part, en revanche, de ma fiancée, de ses inquiétudes. Elle avait peur qu'elle s'en prenne à elle, physiquement même, hein. C'est dire à quel point ces messages étaient effrayants. Je me demande ce qu'elle pourrait faire. Mais bon, à la fois, je pense qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. le bout, c'est de porter plainte. Je veux dire, c'est le sommet, quoi. Et après, je vois pas ce qu'elle peut me faire à part me tuer, mais je pense pas. Ça sera déjà fait.
France Culture, les pieds sur terre.